retrouve Nathalie Amar pour la revue de presse Afrique. Bonjour Nathalie.
Bonjour Magali, bonjour à tous.
À la une ce matin, l'Afrique du Sud, Jacob Zuma sous la menace d'un vote sanction.
En pleine crise économique, avec un taux de chômage officiel à près de 27%, l'opposition a bataillé ferme contre le président ces derniers mois dans l'enceinte du Parlement, dénonçant la corruption, les prébendes, mais sera-t-elle en mesure de prendre à l'ANC de grandes municipalités en dehors de son bastion du Cap à l'occasion des élections aujourd'hui? C'est toute la question. Pour permettre à chacun de faire son choix, le Mail and Guardian soumet au détecteur de mensonges quelques arguments de campagne des différents partis. Ainsi qu'en Zuma affirme que 95% des Sud-Africains ont désormais accès à l'eau courante contre 50% en 94. Eh bien, le président triche doublement. Lorsque l'ANC a pris le pouvoir, on était déjà à près de 80% de Sud-Africains raccordés au réseau d'eau. On est en 2016 en dessous de 90%. Du côté de l'Alliance démocratique, on s'arrange également avec les chiffres sur le chômage dans la municipalité de Midval. Enfin, et le tableau sera complet, Julius Malema, lui aussi, ment lorsqu'il affirme qu'il augmentera les allocations pour les jeunes et les personnes âgées dans le système sud-africain. Cela ne relève pas, Magali, des municipalités.
Le site Africa News rappelle l'enjeu racial du vote 3 ans après la mort de Mandela.
L'opposition reproche à l'ANC d'avoir joué la carte raciale durant la campagne. L'ANC dit que si on est noir, on doit voter pour ce parti, a déclaré le chef de file de l'Alliance démocratique lors d'un meeting à Johannesburg la semaine dernière. « Je ne sais pas pour vous », a poursuivi Moussi Maïmane, « mais ce n'est pas l'Afrique du Sud que nous voulons. Pour moi, cela s'apparente à du racisme. » De son côté, Jacob Zuma accuse l'opposition d'avoir, je cite, « la même haine contre les Noirs que le gouvernement d'apartheid. Il ne pense pas que les Noirs peuvent diriger », affirme le président sud-africain. L'ANC n'est guère plus tendre, qualifiant l'Alliance démocratique, je cite, de parti blanc fondé sur l'idéologie de la suprématie raciale.
Une question à présent, Nathalie. Qui se souvient encore du drame de Yagine et Fodé?
Le titre s'affiche en une de Guinée-Conakry Info. Yagine Koïta et Fodé Tunkara, passagers clandestins du vol Conakry-Bruxelles, retrouvés morts de froid dans le train d'atterrissage de l'avion. On était en août 1999. Deux adolescents qui, dans une lettre incroyable de maturité, appelaient les responsables européens au secours. Depuis ce cri de désespoir, écrit Guinée-Conakry Info, aucune démarche n'a été entreprise pour donner un sens au sacrifice des deux adolescents. Que faut-il de plus pour inciter nos décideurs à changer l'ordre des choses? L'éditorialiste du journal rappelle, la Méditerranée est devenue le cimetière des migrants dans l'indifférence de l'Union africaine et des chefs d'État. Plus de 4000 migrants morts depuis le début de l'année en Méditerranée. L'information est reprise par Le Soleil au Sénégal qui précise que les drames se sont déroulés essentiellement au large de la Libye.
Et la Libye, justement, a-t-on pensé cette fois, Nathalie, au service après-vente?
La question est posée par l'observateur Palga au Burkina à propos des bombardements américains sur la ville de Sirte pour en déloger les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Certes, écrit le journal, les puissances occidentales ne pouvaient pas abandonner la Libye à son sort, mais se pose d'ores et déjà la question de savoir ce que deviendront ces terroristes quand ils auront été neutralisés. Le risque est grand qu'ils se redéploient dans les pays voisins, comme le Mali, le Niger, l'Algérie. Il y a 5 ans, la désagrégation du pays de Kadhafi avait contribué à déstabiliser le vaste ensemble sahélo-saharien. Aujourd'hui, il faut craindre que la débandade programmée des combattants de l'EI ne soit source d'insomnie pour les dirigeants de la région, conclut l'éditorialiste.
Et l'observateur qui donne la parole au patron du Cappuccino.
Le propriétaire du restaurant qui a perdu une partie de sa famille dans les attaques terroristes du 15 janvier dernier à Ouaga annonce pour le 15 janvier 2017 la réouverture de l'établissement. Je veux, dit-il, aller contre l'inacceptable, ce qui a également emporté sa décision. C'est le désarroi dans lequel se trouvent aujourd'hui encore ses anciens employés. Ils méritent, dit-il, qu'on leur redonne une chance. Enfin, l'attaque qui a eu lieu à Nice m'a poussé à ne pas accepter ce qui s'est passé chez nous à Ouagadougou. On doit relever nos manches et continuer à nous battre.
Merci Nathalie Amar. Il est maintenant 4h56 en temps universel.